Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours aujourd'hui, comme toujours, ce sont des contes, des histoires, des légendes. Et comme la semaine dernière, tiens, on va partir en Chine. On va toujours suivre notre ami Pu, Pu Songling, 1622-1715. Eh bien oui, les contes de Pu sont connus en Chine comme les contes de Perrault ici ou de Grimm. Voilà, donc un conte de Pu, mais avant, comme toujours, un petit bout de Tao Te Ching, dès que le générique sera terminé. Alors, le Tao Te Ching, eh bien, la stance 76, excusez-moi. Nouveau né, l'homme est souple et frêle. Mort, il est rigide et dur. À leur naissance, les plantes et les arbres sont tendres et flexibles. Mort, ils sont rigides et durs. Solidité et rigidité sont les compagnes de la mort. Souplesse et faiblesse sont les compagnes de la vie. Et la stance 78. Il n'est rien au monde de plus inconsistant et de plus faible que l'eau. Cependant, elle corrode ce qui est dur et fort. Rien ne peut lui résister ni la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne n'y conforme sa conduite. Voilà, toujours des stances qui font réfléchir. Je ne ferai aucun commentaire, ça n'a rien à voir avec des événements, des personnes ou des choses ayant existé. Le Tao Te Ching, quelqu'un m'a dit que j'étais un peu approximatif concernant les dates, parce que j'avais dit la dernière fois qu'on était, je sais plus combien de siècles avant Jésus-Christ, le Tao Te Ching aurait été composé par Lao Tse, un archiviste de la cour des Tchéou, qui serait né en 570 avant Jésus-Christ. Donc on est quand même dans une période très lointaine, puisque ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est né et mort, hein. Donc 530 avant, on est dans de l'ordre de 2500 ans. C'est vrai que j'avais dit 3000 ans, donc c'était un peu excessif. J'ai un côté marseillais, c'est vrai. Donc maintenant, les contes de Pu. Alors, voilà ce qu'on peut lire dans la préface qu'a écrit Claude Roy sur notre ami Pu, celui qui a écrit ce Liao Chi Chai Yi. 16 volumes, rendez-vous compte, 16 volumes. Pu fut un auteur ignoré de son vivant. Sa gloire extraordinaire dans son pays ne fut que posthume. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, pas seulement en Chine. Son propos devait susciter les haussements d'épaules ou le dédain des contemporains de la caste des lettrés. Noter les récits et les contes que des amis informateurs moissonnaient pour lui, les mettre en forme, donner aux légendaires populaires la perfection d'une œuvre littéraire, cela devait paraître une activité surprenante à des esprits formés à la lecture ou aux commentaires du canon des livres sacrés, des grands poètes classiques et des traités célèbres. Une activité surprenante et pas très sérieuse. La preuve d'ailleurs, c'est que Pu ne réussit jamais à franchir au-delà des prémices le cap des fameux examens qui ouvraient les brillantes carrières de la bureaucratie de l'Empire Céleste. Il était né dans une famille où un trop-plein d'enfants contraignait les siens à tirer le diable par la queue. Il semble qu'il l'attira lui-même jusqu'à son grand âge. Mais dans les quelques confidences bien rares que le charmant Pu nous a fait sur sa vie, il ne se plaint guère. Son grande œuvre l'absorbe et le ravit. Voilà ce qu'il écrit. « Avec ma pauvre lumière de vert luisant d'automne, je m'affronte au farfadet du grand âge. Je ne suis qu'un grain de poussière dans un rayon de soleil, une plaisanterie des esprits. Je charge mes amis d'écrire pour moi les histoires qu'ils connaissent et je leur donne la forme d'un conte. La minuit me trouve le pinceau à la main, près de la lampe qui faiblit, tandis que souffle au dehors le vent mélancolique. Penché sur ma table austère, j'ajuste pièce à pièce mes fables. Je suis pareil à l'oiseau effrayé par le grand froid d'hiver qui ne trouve plus d'abri dans l'arbre, à l'insecte d'automne que la froide lune glace et qui cherche à franchir une porte au-delà de quoi il fera de nouveau chaud. Voilà ce qu'il écrivait donc, ce vieil homme qui était dans la nuit de la ville endormie, moins seul qu'il n'apparaissait, puisque autour de lui, les demoiselles renards, les revenants malins, les génies de l'eau, les moines un peu sorciers et les sorciers un peu saints, veillaient, souriant à l'idée que l'immortalité qui leur était contestée par le cours inexorable des choses, le pinceau du vieux Pou la leur assurerait pourtant. Alors, en voici un parmi ces centaines de contes, qui s'intitule « La leçon que donna à Wang le prêtre taoïste de Lao Chan ». Dans notre village vivait un certain Wang, septième fils d'une très ancienne famille, qui était un fervent admirateur des pratiques taoïstes. Ayant entendu dire qu'à Lao Chan, il pourrait rencontrer de nombreux immortels, il décida de faire le voyage, prit son sac et partit. Escaladant la montagne, il atteignit un monastère retiré où il vit un prêtre assis sur une natte en jonc. Ses longs cheveux flottaient sur ses épaules et son visage était doux et avenant. Wang le salua bien bas et dit « Mystérieuse est la voix, je vous prie maître de me l'enseigner. » Fragile et délicat comme vous êtes, j'ai peur que vous ne puissiez en supporter la fatigue, répondit le prêtre. Mettez-moi à l'épreuve, dit alors Wang. Et au crépuscule, lorsque les disciples qui étaient nombreux se rassemblèrent, Wang se joignit à eux, rendit hommage au prêtre et resta au monastère. Chaque matin, avant l'aube, le prêtre appelait Wang, lui donnait une hachette et l'envoyait avec les autres couper du bois pour le feu. Wang obéissait scrupuleusement. Il travailla ainsi pendant près d'un mois, jusqu'à ce que ses pieds et ses mains ne soient plus que des plaies et des ampoules. Alors, il songea secrètement à rentrer chez lui. Un soir, qu'il regagnait le monastère, il vit deux étrangers qui buvaient et devisaient avec son maître. Il faisait déjà sombre, mais il n'avait auprès d'eux ni lampe ni bougie. Le vieux prêtre prit alors des ciseaux, découpa dans une feuille de papier un rond en forme de miroir et le colla au mur. Aussitôt, Le papier se transforma en une lune scintillante qui éclairait si fort qu'on n'eût pu distinguer un cheveu ou la barbe d'un épi de blé. Les disciples, rassemblés, se préparaient à servir les invités. Mais l'un des étrangers dit « Une fête comme celle d'aujourd'hui mérite que nous nous réjouissions tous ensemble. » Il prit sur la table la marmite de vie et la présenta aux disciples, les priant de boire chacun leur content. Notre ami Wang s'étonna. Ils étaient 7 ou 8, comment une seule marmite pourrait-elle suffire à apaiser leur soif à tous? Les disciples, faisant le même raisonnement, se ruèrent alors à la recherche de tasses, chacun se battant pour être servi le premier, de peur que le vin ne vienne à manquer. Mais tous purent boire, sans que la marmite ne se vide, ce qui les surprit fort. Un des étrangers dit alors « Vous avez donné une belle lune brillante, mais il est toujours un peu triste de boire entre soi. Pourquoi ne pas demander à Shangno de se joindre à nous ?» Il saisit alors un bâton et le jeta contre la lune. Et là, une jeune femme, ravissante, mais pas plus haute qu'un doigt, en sortit et se laissa glisser le long des rayons de lumière. À peine eut-elle posé le pied à terre, qu'elle grandit, et sa taille devint celle d'une adulte. Elle avait le corps souple, le cou délicat, et se mit à danser le pas du ruban rouge le plus gracieusement du monde. Elle chanta ensuite la chanson suivante. Attendez-moi, mes sœurs, bientôt je serai parmi vous. Froide est la lune, solitaire l'épouse qui quitta son époux. Sa voix était franche, bien timbrée, et sonnait claire comme les notes d'une flûte. Lorsqu'elle eut terminé sa chanson, elle fit une pirouette, sauta sur la table, et à la surprise générale, redevint un bâton. Les trois amis éclatèrent de rire. L'un dit alors « Nous sommes bien joyeux cette nuit, mais il n'y a guère de place ici. Ne voudriez-vous pas venir boire le verre de l'adieu dans le palais de la lune ?» Ils soulevèrent alors la table et entrèrent dans la lune où on put les voir, buvant à pleine gorgée leurs sourcils et leurs barbes luisant comme des miroirs. Puis lentement, la lumière s'obscurcit. Les disciples sortirent chercher une bougie, et lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent le prêtre assis tout seul dans l'obscurité. Mais les viandes étaient toujours sur la table et le papier toujours sur le mur. « Avez-vous bien bu ?» demanda le prêtre. Ils lui répondirent que oui. « Dans ce cas, vous feriez mieux d'aller vous coucher pour être en mesure demain de couper votre bois. » Ils s'en allèrent tous. Wang, émerveillé de ce qu'il avait vu, ne songeait plus à quitter le monastère. Mais après un certain temps, de sa vie de labeur à nouveau, et commença à ressentir la fatigue. Et comme le prêtre ne lui apprenait rien sur l'art de la magie, il décida de ne plus attendre. Il alla le trouver et lui dit « Maître, j'ai voyagé pendant des lits et des lits pour profiter de votre enseignement. Si vous ne m'apprenez pas le secret des immortels, apprenez-moi au moins un ou deux tours vulgaires pour apaiser quelque peu mon ardent désir de savoir. Voilà 2 ou 3 mois que je suis ici ne faisant rien d'autre que de fendre du bois. C'est un travail dont je n'ai pas l'habitude. Ne vous avais-je pas dit que vous ne supporteriez pas la fatigue? Demain, je vous mettrai sur le chemin du retour. Maître, dit Wang, j'ai travaillé pour vous de longues semaines. Apprenez-moi quelques petites choses, que ma venue ici n'ait pas été totalement vaine. Quelle chose, dit le prêtre. Eh bien, j'ai remarqué que lorsque vous vous déplacez, les murs et les parois ne sont pas pour vous un obstacle. Apprenez-moi comment vous faites et je serai satisfait. Le prêtre alors se mit à rire. Il lui récita une formule qu'il lui fit répéter. Puis il lui commanda de traverser le mur. Wang, voyant les pierres devant lui, hésitait un peu. Comme le prêtre insistait, il avança doucement et se buta à la paroi. Le prêtre alors lui dit « Vous allez trop lentement, baissez la tête et prenez de l'élan. » Wang recula de quelques pas et s'élança de toutes ses forces. Et là, le mur céda devant lui et il se retrouva dehors. Enchanté, il rentra remercier le prêtre qui lui recommanda d'user de son pouvoir avec prudence car sans cela, il risquerait de ne plus agir. Il lui donna aussi quelque argent pour ses frais de voyage. Et Wang quitta le monastère. Lorsque Wang fut de retour chez lui, il se vanta partout des amis taoïstes qu'il avait connus et du mépris dans lequel il tenait dorénavant murs et murailles, portes et grilles. Comme sa femme et ses amis restaient incrédules, il résolut de refaire devant eux son exploit. Il se mit à quelques pas du mur, récita sa formule, baissa la tête et s'élança de toutes ses forces. Oh, mais les briques restèrent dures et poum, elle s'affaissa par terre à demi assommée. Sa femme, en le relevant, vit qu'il avait au front une bosse de la taille d'un œuf, ce qui la fit beaucoup rire. Wang, au comble de la honte et de la rage, maudit le vieux prêtre et le traita d'ingrat. Voyage en Chine, et d'ailleurs on continue nos voyages puisque on a du temps, on va partir maintenant avec Nasreddin du côté de la Turquie. Lors de sa première visite à Konya, la ville sainte de grande renommée, Nasreddin, en flânant dans la rue, voit à l'étal d'une boutique de magnifiques plats de halva, une douceur pour laquelle il se damnerait. Il entre dans la boutique, en prend une bonne portion et il se met à manger sans façon. Le marchand accourt aussitôt avec un bâton et lui assène une grêle de coups. Tant et si bien que Nasreddin se sert une nouvelle portion, encore plus copieuse, et les coups de redoubler. Ah, quelle ville merveilleuse ! S'écrie Nasreddin au comble du bonheur. Chez nous, à Akshehir, il faut payer le halva avant même d'y toucher. Ici, on vous bat pour en manger gratis. Un soir, un homme entre chez Nasreddin, sans prévenir, tenant une lettre à la main. « Nasreddin, voici pour toi. Je viens de recevoir une lettre écrite en persan et tu vas me la lire. »« En persan ?» s'écrie Nasreddin. « Mais mon pauvre ami, je ne connais pas un traître mot de cette langue-là. »« Comment ?» fait l'autre, scandalisé. « On te donne partout le titre de maître, tu oses toi-même porter un turban de savant gros comme une coupole et tu ne connais même pas le persan ?» À ces mots, Nasreddin s'arrache son turban et l'enfonçant sur la tête de l'autre jusqu'au menton, lui crie « Tiens, le voilà, le turban, lis donc toi-même, imbécile !» Et voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. On a eu droit à Nasreddin, hein, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on a du mal à le caser. Mais pour aujourd'hui, l'émission est terminée. Si vous voulez la réécouter, elle est rediffusée le dimanche à 18h. Et puis, en tout cas, moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. C'était Marco, compte à rebours. Compte à rebours. À très bientôt.